empruntés à gauche, à droite.
Alors, Dorian Russell, Libération sexuelle, troisième partie d'une trilogie. Quel a été un petit peu le fil conducteur de justement ces trois tableaux en fait de la vie contemporaine, cette manière d'interroger une identité qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres auteurs européens, notamment Eleanor Weber, à laquelle fait penser peut-être par certains côtés Libération sexuelle. Eleanor Weber, elle, amenait notamment des scènes de air-sex qui sont très populaires au Japon actuellement, donc cette manière de faire l'amour tout seul sans partenaire. Ici, c'est une manière peut-être de s'interroger dans ses rapports à soi, aux autres, aux mots. Qu'est-ce qu'il en était justement sur ces trois volets 2004, 2006 et le dernier en 2007
2008 l'idée c'est quel théâtre, comment parler du monde aujourd'hui, c'est quoi sa spécificité, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, en gros c'est quoi la spécificité de notre époque, en gros comment essayer de faire un portrait de notre époque. Et puis, ça se déclinait, en gros, de... Ça se rapproche toujours plus de l'individu, les trois volets. Alors, c'était donc Les Jours Heureux, Gloire et Beauté, Liquidation Totale et Libération Sexuelle. C'est les trois fois des titres de choses comme un Éden dont on nous parle, qu'on aspire, qu'on fantasme. On ne sait jamais si c'est achetable, si c'est vendable, si c'est... Comment se positionner avec ça, les jours heureux, est-ce que c'est là d'où on vient ou est-ce que c'est là où on va, libération sexuelle, il y a le fantasme collectif et la réalité individuelle.
Alors Pascal Bruckner parlait dans un essai célèbre de la tyrannie du bonheur, de cette éthique qui oblige justement à une forme de bonheur obligatoire et qui ne permet pas nécessairement de percevoir des éclats de bonheur beaucoup plus interstitiels, avec cette espèce justement de consumérisme par rapport à l'orgasme, par rapport à la jouissance, par rapport au plaisir. Le bonheur justement, le personnage principal entre guillemets, cette figure à la fois de metteur en scène et d'homme largué, lui il le piétine d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette idée? On retrouve aussi certaines lignes sans doute de La Salle de Bain ou d'autres de Jean-Philippe Toussaint là derrière.
Ouais, surtout le Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint qui nous a un peu accompagnés comme ça durant... on voulait pas monter Faire l'amour, mais on voulait... on trouvait... Voilà, c'est un auteur qui essaie de capter notre époque, comme Houellebecq, comme d'autres, un peu à l'autre pôle, hein, à l'opposé. Mais et effectivement, à côté de ça, qui font des œuvres artistiques, ces auteurs, il y a des auteurs comme Bruckner, comme Lipovetsky, qui écrivent des choses. Et nous, on se dit, quel théâtre ça ferait de ces choses qui nous intéressent, quoi, l'hypermodernité. Comment concrètement, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On dit qu'on est dans une époque de l'après-orgie. Donc ça, on l'a plus évoqué dans les deux premiers volets. Voilà, que faire après l'orgie? Et justement, comment on peut témoigner de ça, peut-être de manière plus ludique, aux gens qui n'ont pas envie de lire Pascal Bruckner?
Alors justement, l'ouverture en fait se fait par rapport à un metteur en scène qui harangue un public ou des comédiens imaginaires qui ne sont pas présents. Alors il y a eu des précis de théâtre, que ça soit, j'entends, du paradoxe du comédien de Diderot jusqu'à l'être épître au comédien d'Olivier Py. Je veux dire, cette manière de raisonner sur la matière théâtre, qu'est-ce qu'on fait du théâtre, quel est ce rapport, qu'est-ce que vous vouliez montrer au travers de... disons de ce metteur en scène totalement démiurge qui est là effectivement, qui se brosse les dents, face publique. Il y a une manière peut-être de voilà, d'aborder le théâtre qu'on a pu avoir en tant que comédien, de passer justement par ce type d'introduction. Ça amenait quoi en fait, on définissait un petit peu ce qu'étaient les éléments principaux d'une représentation ou ce qu'il devait être ou qu'est-ce qu'il y avait?
Il y avait, bon, Je vais pas essayer d'expliquer ce que j'ai voulu faire, hein. Si ça passe, c'est une manière de commencer le spectacle qui décrit un individu qui est notre personnage central. Ça, c'est pour ceux qui ont vu, hein, le spectacle. Et après, et plus ça va, on croit qu'il nous parle à nous, plus ça va, plus on se rend compte qu'il est dans sa salle de bain et qu'il parle tout seul dans sa salle de bain. Pour moi, ça induit quelque chose. Et après, Il y avait des choses qui me faisaient rire aussi, tout simplement. Ça me faisait rire aussi d'épingler ce discours sur soi, cette auto-promotion, cette auto-congratulation, cette mise en scène de soi, qu'on a aussi, la mise en scène de soi dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on voit que des gens font l'amour comme s'ils étaient en train de tourner un film porno, donc ils se mettent en scène pour... Il n'y a justement pas ce moment d'abandon. Et là, c'est un metteur en scène qui est dans un désir de toute puissance dans cette salle de bain. Et c'était une manière d'ouvrir cette fenêtre sur ce spectacle. Vu que le spectacle, on peut le voir de différentes manières, mais notamment que tout ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est une lecture qu'un spectateur a fait qui me plaît.
Alors théâtre mental peut-être, mais très organique aussi. C'est vrai que Marco Berrettini, dans une de ses chorégraphies, avait présenté dans une sidérante douceur, assez décalée, mais effectivement des corps enchaînés l'un à l'autre dans des orgasmes successifs, se pénétrant par toute voie. Il y avait une espèce de mouvement mécanique comme ça, assez éthéré, assez sidérant. Gisèle Vienne, par exemple, autre chorégraphe, a effectivement, elle, notamment avec des personnages au visage de poupée, donner effectivement une autre vision de la sexualité en acte. Il y a eu également, je crois, l'année dernière, à l'ouverture du festival dansé, un couple de créateurs qui, eux, reproduisent alors véritablement des icônes de la pornographie et du film X, mais habillés. Ici, vous choisissez une certaine frénésie, disons, dans la chose, où on peut reconnaître évidemment cunnilingus, fellation et toute autre géométrie sexuée. Qu'est-ce qu'il y avait justement dans cette volonté de comme ça d'accoupler un petit peu, parce que je crois qu'il y a un rapport à la fois à la choralité qui peut aussi se retrouver ici comme à d'autres moments, puisqu'il y a un certain nombre de chansons notamment, il y a toute une manière de tressage de voix, mais là il y a une sorte de tuilage des corps. Qu'est-ce qu'il y avait au travers de ça, en fait, comment c'est surgi un petit peu?
Bon, c'est clair que moi je construis mes spectacles aussi comme une envie de pas faire un spectacle de plus dans le paysage qui se passe. Mais c'est vrai que je suis touché par ces spectacles, moi, de Berrettini. Je lui envie vraiment cette espèce de chaîne sexuelle, en fait, ou comme une chaîne à la queue leu. Enfin, je trouvais ça très très drôle là, sur la scène de la comédie. Et les spectacles de Gisèle Vienne aussi. Enfin, et je me dis, bah tiens, il y a peut-être. D'ailleurs, ça me plaît parce que c'est des spectacles qui me touchent, donc je me dis, ben, c'est chouette que quelque part ce spectacle leur réponde un peu, comme ça c'est une manière de... Je préfère rendre hommage à eux qu'à d'autres. Mais après, que les gens n'aient pas ces références quand ils voient le spectacle, ça m'est égal. Hein. Par contre, j'ai conscience que ces spectacles se sont faits, qu'il y a eu ce point de vue-là, donc je n'allais pas reproduire la même chose. Mais... Il y a, pour moi, il y a aussi une quête de se faire plaisir à tout prix, quoi. Une quête onaniste, et on change de. Je cherche pas à avoir un discours moral là-dessus, mais je trouve que de le mettre en scène, je trouve ça rigolo. Alors, effectivement, là, on sort de la représentation, donc je suis un peu dans cette euphorie-là, mais moi, je cherche un dialogue avec les comédiens pour trouver un dialogue entre la scène et les spectateurs, que les spectateurs soient pas juste assis à contempler quelque chose qui se passe devant eux, mais essayer de générer quelque chose à l'intérieur d'eux, et que qu'ils puissent y avoir une lecture par rapport à leur propre vécu, comment eux ils se positionnent par rapport à ça. Ça je trouve intéressant. Donc en gros, je dirais que j'essaie de soumettre des signes pour que ça déclenche des choses en eux, mais eux doivent faire un travail.
Et par rapport à ça, justement, cette scénographie avec ces ballons extrêmement géométriques, dans lesquels on les verra effectivement recouvrir de manière très très plasticienne. On peut penser à certains artistes, notamment français, sans véritablement les citer, mais j'entends en dehors de cela, c'est vrai qu'il y a ce phénomène, disons, de comment a émergé justement cette idée du ballon. On va pas révéler la fin, mais c'est vrai qu'il est décliné dans beaucoup de circonstances, en fait, dans cette pièce, pour vous, notamment avec cette frise des comédiens au départ, qui vont eux-mêmes décliner, ou peut-être se faire leur pitch ou leur marketing comme ça viral, comme on dirait, eux-mêmes, leur propre bande-annonce, et puis après souffler dans un ballon. On retrouvera ça à plusieurs reprises. Vous, ça vous a apporté quoi, ce côté, on retrouve Bidoum Bidoum, on retrouve l'enfance, mais peut-être quelque chose d'un peu plus inquiétant, je ne sais pas.
Bah, c'est clair que, bon, j'ai lu un... Oh, je ne veux pas faire l'étalage de ce que j'ai lu, mais il y a, un ouvrage sur le syndrome Peter Pan. Ça m'a intéressé, même pour un précédent spectacle. Vous savez, on développe des scènes autour d'un thème, puis après on développe 500 scènes, puis après le spectacle d'après, on développe d'autres choses. Puis d'un coup, il y a des choses qui reviennent comme ça. En l'occurrence, il y a cette envie de faire la fête à tout prix, et cette envie de... en même temps... je trouve incroyable ce que ça génère. Moi, comme bonheur chez les gens qui arrivent juste à voir un ballon, qu'est-ce que ça éveille. Je trouvais intéressant de jouer là-dessus, en fait, et de casser cet objet devant nous. Ouais, ça y est, j'ai révélé la fin, entre autres. Mais c'est-à-dire de bon, déjà on avait très peu d'argent, hein, donc on a fait aussi. Mais c'est vrai qu'il ne s'agissait pas de représenter un lieu, un espace. Il s'agissait de penser une scénographie comme on aurait envie d'en voir en discutant ensemble. On se disait, tiens, voilà, ça. On a essayé plein de choses et voilà, on est arrivé à ça parce que ça me plaît que les gens voient ça comme... Ils gonflent un ballon comme on gonfle notre ego. Ils laissent s'envoler leur ballon et ça fait juste pout, et puis ça tombe, et puis rien. Et puis, qu'est-ce qu'il leur reste? Il reste à en gonfler un autre, plutôt que de le récupérer. Il y a la consommation, il y a des choses comme ça. Et après, il y a aussi un truc très bête qui est de l'ordre du rythme dans le spectacle. À quel moment... arrive, c'est une manière de faire une virgule, comme on fait des virgules musicales, on compose des symphonies comme ça. Et moi, j'aime bien essayer. On fait du théâtre, et après, tous les moyens possibles et imaginables, que ce soit plastique, chorégraphique, que ce soit poétique, on peut emprunter sans vergogne dans n'importe quel... Et d'ailleurs, c'est quelque chose que peut-être je reproche à certains créateurs, de pas aller voir dans d'autres arts qu'est-ce qui se passe, parce que des fois pendant longtemps je trouvais que dans la danse ça allait bien plus loin et que qu'est-ce qu'on allait monter encore Coltès non, je dis ça parce que les temps changent, quoi. Et après, en fait, je dis ça, mais j'ai vu des fois Coltès monter magnifiquement et voilà, mais moi, je suis allé à Paris récemment, je suis allé au Palais de Tokyo, j'ai été vraiment profondément touché par des choses. On dit toujours l'art contemporain, c'est chiant. Et c'est pas vrai, je trouve que c'est hyper ludique, c'est hyper intelligent, c'est hyper touchant, hyper délicat. Après, je suis allé voir 4 spectacles dans la semaine et j'étais affligé, moi, par ce que je voyais, qu'on me parlait encore comme si j'avais 5 ans. Et d'ailleurs, on a fait une scène dans le spectacle où, justement, on parle aux spectateurs comme... pour rigoler de ça, parce qu'on veut plus qu'on nous parle comme ça. Enfin, moi, je dis moi.
Non, mais vous avez l'impression que, disons, le théâtre auquel vous êtes confronté est un théâtre qui débilise fortement le public.
En tout cas, qui ne tient pas compte de moi comme spectateur. C'est-à-dire que si je me mettais à hurler, personne ne verrait rien. Et j'ai envie d'hurler, des fois. Et des fois, je me sentais que j'avais même pas le droit de respirer, de bouger. Je me sentais... dans la salle, et moi j'ai envie de... Alors, on dit ça au début, dit, ouais, à un moment les comédiens ils disent oui, ils parlent d'un autre spectacle et ils disent on se sentait pris en otage, et moi j'aime pas ça, j'aime me sentir libre, et puis pour moi le théâtre ça peut générer des espaces de liberté, d'aller dans des sensations que des fois on connaît pas. Alors il y a les rires, les larmes, voilà, mais au-delà il y a toutes des gammes que pour moi la danse me génère. Alors j'ai eu engagé des danseurs, j'avais aussi plaisir de les entendre parler, de les entendre amener quelque chose. Et là, je constitue une équipe de gens qui viennent du théâtre de rue, qui viennent de l'école Dimitri, qui viennent de différents, du classique, des gens, des comédiens très très bons, suisses, et qui travaillent jamais en Suisse, et qui travaillent énormément en France. Et je me dis, j'ai le plaisir aussi de faire connaître des gens qui ont des nouveaux visages.
Alors, nouveaux visages, c'est vrai, certains comme Delphine Lanza, on l'a déjà vu, notamment sous la direction de Valentin Rossier dans un Othello, et puis récemment dirigé par Andrea Novikov pour Valparaiso, et naturellement pour plusieurs de vos créations. J'aimerais qu'on revienne peut-être à cette côté de transversalité, de venir à d'autres disciplines, notamment du champ des sciences sociales, plus précisément ici la sociologie. Si on revient à un créateur qui a fait peut-être date dans ce côté-là, c'est Xavier Leroy avec Product of Circumstances, qui est produit des circonstances, où il racontait à la fois sa double trajectoire de danseur et de biologiste. Ici, vous introduisez effectivement sous forme de conférence ex cathedra, même menée de manière extrêmement simple, William Reich, qui est effectivement devenu peut-être un mythe, mais comme le dit le conférencier ou le spécialiste, entre guillemets, ou même pas entre guillemets, de cette personne, pour les personnes d'au-delà de 50 ans, ça dit encore quelque chose, pour les autres, pas grand-chose, en tout cas nettement moins que Freud. Pourquoi justement cette excursus qui est à la fois, disons, très court, ex cathedra comme ça, avec tout ce que ça peut avoir de séduction pour un auditoire érudit et universitaire, mais qui néanmoins est une stase qui semble faire approximativement une dizaine de minutes. Donc là, on est alors dans un temps tout autre, même s'il y a beaucoup d'ironie, parfois beaucoup de choses. Pourquoi avoir fait ce choix quand même assez massif, dangereux?
Oui, bon alors c'est un pari, hein. Moi, je suis ravi que les gens m'en parlent avec beaucoup de bonheur, en tout cas, et que les gens sont captivés par ce moment. Effectivement, c'est quelqu'un qui a sombré dans l'oubli alors qu'il générait les passions, déchaînait les foules. On dit que c'est un c'est Daniel Cohn-Bendit et des amis, lui qui se revendiquait de William Reich dans l'université à Nanterre en demandant le libre accès au dortoir des filles, et on dit que c'est un des éléments qui a déclenché mai 68. Alors moi j'ai découvert ça en faisant des recherches pour le spectacle, et tout d'un coup je trouvais ça passionnant, j'en parlais autour de moi, personne connaissait, et tout d'un coup j'en parlais à des gens un peu plus âgés, mes parents qui m'en parlaient pendant 2 heures, auprès d'autres gens, etc. Tout simplement, je trouve qu'il y a des choses intelligentes qui dit, et moi j'aime l'intelligence. Pour moi l'intelligence, la vraie intelligence, c'est pas le déversement de savoir, c'est la sensibilité. Tous les gens enfin, je sais pas, quand j'écoute Edgar Morin, c'est pas un intello, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, qui fait des liens entre les choses. Et je trouve que c'était c'est un risque de faire une conférence au milieu d'un spectacle. Effectivement, c'est difficile à trouver le moment juste où la placer, c'est difficile de repartir après. Moi, je pense que ça fonctionne. Après, si des gens trouvent que ça fonctionne pas, voilà, je suis prêt à en discuter, mais ça me plaît de... En fait, j'aime bien quand je sors d'un spectacle, et en plus, je découvre un truc. Il y a plein de jeunes qui me disent « Mais il a réellement existé, ce gars ?» Puis je fais « Mais allez voir sur YouTube, allez voir, tapez sur Google William Reich, Orgon, et c'est labyrinthique, quoi. » Moi, j'aime que j'aime bien que ça m'ouvre des portes, des sens, et d'intelligence.
Alors, de la connaissance du monde à la connaissance de soi, on passe avec la soirée Diaporama, donc ces diapositives humaines où effectivement c'est cet homme en rupture comme ça, où il y a des messages qu'il laisse ou qui sont laissés sur son répondeur, sans qu'on pense nécessairement aux voix humaines de Cocteau, mais disons, il y a cette vision comme ça de ces trois couples, enfin il y a deux couples et un jeune homme seul. Alors lui a un couple de lui plus jeune, ses parents qui vont rester muets, un petit peu je sais pas si c'est un clin d'œil à l'expressionnisme allemand, mais disons il y a un côté assez particulier. Et puis un jeune homme, qu'est-ce qu'il en était justement au travers de ce côté un petit peu diaporama, panoptique intime comme ça que vous avez voulu développer pour reprendre l'une de vos précédentes démarches artistiques.
Comment parler d'un individu? Qu'est-ce qui reste comme souvenir? Quand on est en rupture amoureuse, ce personnage est en rupture amoureuse, il essaie de se reconstruire dans un monde qui s'effondre autour de lui. Et il doit faire les cartons dans l'appart qu'il partageait avec cette fille pour vider les lieux. Et comment décrire cet individu? On a choisi cette option qu'on a développé des scènes qu'on trouvait intéressantes, et on se dit, bah tiens, si il voyait des photos de sa vie. Mais d'abord, on avait des scènes qui nous plaisaient, sur le temps qui passe, sur la naïveté de je sais pas, tous les couples, les nouveaux couples, quand ils se rencontrent, quand ils sont amoureux, c'est forcément toujours parfait, toujours beau, toujours. Et là, en l'occurrence, c'est un couple comme ça. On avait une scène comme ça. Et qui nous disait, au bout d'un moment, ils étaient énervants tellement ils étaient beaux. Et jusqu'au moment, ils nous disent, mais nous, on fait plus l'amour et c'est super. Et voilà, ça, je trouvais intéressant. C'est parce qu'on est un peu, des fois, dans une dictature du jouir et du... Je veux dire, si un homme se fait quitter par une femme après 7 ans de vie commune, on pense que c'est parce que c'est un mauvais coup. Enfin, ça fait partie des choses comme ça qu'on a réalisées. On se dit, bon, ben... Et c'est intéressant, il y a des gens qui délibérément choisissent de plus faire l'amour. En quoi on est choqué par rapport à une image de perfection, des choses comme ça. Et voilà, c'était une astuce de mise en scène, en fait.
Il y a ce moment où effectivement Delphine Lanza parle en vers, elle parle de la découverte de son propre corps, du corps de l'autre, de la manière dont s'enchasse ou s'emboîte un sexe, un oui féminin et un sexe masculin. Qu'est-ce que vous aviez dans l'idée? Il y a en plus donc le personnage qui jouait le rôle de l'ours Bidoum Bidoum, qui vient avec sa couronne, comme ça on se croit presque dans le dernier Maggie Marin Turbine, avec ce côté de personnages un peu qui abandonnent leur rôle, ou en tout cas de comédiens qui abandonnent leur personnage. Qu'est-ce qu'il en était par rapport à ça, justement, de dire le désir comme ça, de manière à la fois très décalé, mais très, je dirais pas cru, mais c'est presque une espèce de mystère moyenâgeux, où je sais pas, il y a la morale qui arrive à la fin, enfin bon, on prend sa foi, charité et autres, on va pas multiplier les références, mais disons, comment ça a un petit peu surgi comme ça, parce qu'il faut quand même qu'on parle de ce ping-pong qu'il y a eu entre la table, les improvisations, je crois que ça a été, vous êtes ressorti en fait de cette période de répétition et de préparation, pire qu'en sortant d'une machine à laver, donc ça a été vraiment très éprouvant, parce qu'on croit que parce que rien n'est écrit, c'est extrêmement facile, or c'est là que c'est le plus délicat. Alors déjà par rapport à ce moment justement, est-ce qu'il a été, lui, c'est une partition écrite, cette versification, parce que tout de même elle est assez, enfin voilà, c'est très bien troussé.
Oui, c'est le théâtre érotique du XVIIIe siècle, c'est des pièces de théâtre très drôles, anonymes, et c'est extrêmement drôle. J'ai un vieux désir de monter ces textes, mais voilà, l'occasion s'est pas présentée. Et voilà, quand on fait une création, moi j'aime le langage, j'aime la variété du langage. Quelque chose que des fois je regrette, et en même temps je peux avoir extrêmement du plaisir à certains spectacles ou de danse où il y a une idée forte, belle et tout, mais il y a un moment donné où elle m'est proposée au début et j'attends. Tant que ça se passe, que ça se décline jusqu'à la fin. Moi, j'aime bien quand on m'en donne l'impulse, ça continue à travailler en moi, et j'aime bien changer de mode de niveau de d'écriture. Et ça me plaît de passer de l'alexandrin du XVIIIe siècle à une conférence, et pourtant que trouver la possibilité que ça passe. Mais je parle de quelque chose que les chorégraphes et les danseurs connaissent très bien, les créations, ce qui est une longue tradition depuis Cantor et avant, de créer, d'inventer du living théâtre, Brooke aussi a fait ça, enfin, le théâtre du radeau le porte encore avec vigueur, Pierre Meunier, enfin, c'est des gens que j'admire.
Le chant du ressort.
Ouais, ouais, et l'os, non, le tas, pardon. Moi, je dis, ça a eu créé des spectacles qui m'ont beaucoup touché, et puis j'essaie de m'y coller pour. Mais donc c'est quelque chose qui est connu dans d'autres contrées, mais ici il y a un héritage brechtien quand même assez fort. Et je dis souvent que si je travaille souvent en Normandie, à Caen ou au Mans, enfin plutôt dans le nord de la France. Et là-bas, j'ai vraiment tenté de monter des textes. Je viens de monter Lilium de Ferenc Molnár. Je monte des textes là-bas parce que là-bas, ils sont vraiment des héritiers de Cantor. C'est évident. Et ici, parce qu'il y a suffisamment de gens qui montent des textes de théâtre, je dis, ben tiens, parlons aux gens d'ici, avec, inventons un vocabulaire ici différent.
Ce qui n'empêche pas votre envie de monter des classiques contemporains comme Beckett.
Alors, non, ça, ça vient de l'article de la Tribune de Genève. La phrase exacte, c'était ça. C'était, moi, j'adorerais monter Godot, mais j'en toucherai pas une virgule. Et vu qu'il y a tellement de gens qui le font bien ici, je vais pas le faire. En tout cas, pas maintenant. Pour l'instant, on me donne des cartes blanches, on me donne des possibilités de faire des choses de un jour viendra où, bien sûr, c'est incontournable. Beckett, Tchekhov, Shakespeare, bien sûr, tout créateur veut s'y coller. Voilà. Mais c'est pas au programme tout de suite.
On parle dans votre.
Je voudrais être sûr d'avoir quelque chose de... J'ai été suffisamment bouleversé, touché par des versions de Godot pertinentes, intelligentes. Notamment une montée par un de mes comédiens, Xavier Fernandez Escavada, qui est aussi metteur en scène, que je trouvais très pertinente. Donc, c'est des collaborateurs proches, hein, Delphine Lanza, Xavier Fernandez Escavada, Fiamma Kamesi, il y a un noyau de base comme ça qui sont. Pour moi, je viens de la mise en du travail collectif avec Demain on change de nom, et pour moi vraiment, j'ai réalisé que. Il y a plus d'écho d'un point de vue financier, d'un point de vue journalistique. Si quelqu'un met son nom, je mets mon nom, mais c'est pas par envie d'apparaître moi. Pour moi, on discute. Je viens du collectif, j'oublie pas ça. Et moi, je pourrais vraiment mettre co-mise en scène Delphine Lanza, Dorian Russell. Enfin, voilà, elle est comédienne. On sait que plus on met en scène les comédiens, plus on met en scène, moins on est engagé comme comédien. Alors voilà. Elle a encore envie de jouer passionnément, dans plein de passer dans d'autres univers, pas travailler qu'avec moi. Alors, des fois, je mets collaboration artistique, des choses comme ça, mais peu importe, on s'en fout de ça. Ce qu'on a envie, c'est de faire des œuvres qui touchent le public, et puis le rire, c'est une porte d'entrée, et puis là, on voit que les spectateurs le prennent, en fait. Donc,
cette manière de faire respirer l'espace, que vous avez aussi le tamisé d'une certaine manière, puisqu'il y a évidemment des rondes, des courses, il y a également un couple qui était assis juste à côté de moi, et qui commence donc à comme une patte, à s'étendre comme ça, et dans diverses formes, disons, d'accouplement. C'est une espèce de progression comme ça, un petit peu comme des lombiques qui glisse. Qu'est-ce que vous aviez justement en idée de avec ces grands cercles, que ça soit en course ou alors de l'autre côté avec ce couple qui se déplace comme ça en reptation?
Ben, c'est un jeu de rapport et un jeu de force que. En fait, je crois que l'art essaie de toucher à travers le visible à des choses d'invisible. Et c'est assez difficile à mettre en mots qu'est-ce qui fait que c'est plus, je dirais, énergétique, d'envie peut-être de casser la barrière scène-salle. On peut parler du canon Orgone, mais qu'on présente à un moment donné, qui est directement dirigé sur les gens qui se mettent à faire l'amour. J'aime beaucoup quand, en discussion, on amasse énormément de matériaux avant le premier jour de répète. Après, on invente, mais quelque chose de l'ordre de 500, 600 scènes. Et le spectacle se construit à partir de 3, 4 scènes centrales. Et après, tout d'un coup, avec la complicité des comédiens, il y a des choses qui émergent et on sent quand c'est juste ce que Claude Régis demande absolument. Radicalement, que ça s'invente chaque soir. Alors, nous, on n'a pas le talent de Claude Régis, mais en tout cas, c'est cette nécessité de tendre à l'art. Moi, j'aime pas les gens qui font de l'art qui disent « Ouais, mais moi, je ne suis qu'un artisan. » Parce que non, on peut tendre. Les artisans, c'est de la matière. Oui, on travaille aussi avec la matière, mais on doit tendre à quelque chose. C'est une quête impossible. Hein. Moi, je suis jamais content de mes spectacles. Ça peut toujours aller plus loin. C'est une quête impossible. Mais... Le but, c'est de faire une explosion atomique. On n'y arrive pas, mais je travaille maintenant pour faire le spectacle du siècle dans 10 ans. Bon, si ça a déjà un écho, qu'on me donne la possibilité de continuer à le faire, tant mieux. Mais je sais qu'il y a une part. J'essaye de. On doit osciller entre l'intuition, la compréhension. Et faire un va-et-vient comme ça. Il y a une compréhension intellectuelle qui nous permet de trouver des scènes. Il y a des scènes qui nous parlent, qui nous touchent, on ne sait pas pourquoi. Et on doit faire le chemin intellectuelle pour les comprendre. On doit énormément se prendre la tête durant les répétitions. Je revendique que je suis quelqu'un qui me prend la tête. Les comédiens se prennent tous la tête pour que, au moment de la représentation, le public ne se prenne pas la tête et voyage et décolle avec leur imaginaire, passe d'un univers à l'autre. Mais quand je vois des comédiens sur scène qui essaient de me prouver qu'ils sont intelligents, c'est de me prouver qu'ils ont compris le double sens de Shakespeare, le triple sens du truc. Et je trouve que c'est arrogant. Alors, voilà. Nous, je sais pas où on se situe dans ça. En tout cas, on essaie d'être vigilant à... Je leur disais, on est à 2 jours de la dernière. Demain, c'est la dernière, mais dans le sens que je leur disais encore aujourd'hui... Il y a eu beaucoup de succès à Lausanne, il y a beaucoup de succès ici, mais je dis, c'est pas gagné. Chaque soir, attention de vraiment, quand le spectacle commence, vous savez pas où on en est. On sait pas où on en est. On doit trouver la rencontre absolument maintenant. Sinon, le cinéma fait ça mieux que nous de raconter des histoires. On est plus pris d'un... Le théâtre a quelque chose d'unique, c'est que c'est en direct, c'est là maintenant devant nous, avec les gens et pas pour les gens.
Une dernière chose, peut-être on peut parler des chansons. Enfin, on connaît la chanson d'Alain René, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a une utilisation des chansons, et notamment ça commence par un très beau duo avec cette musicienne, violoncelliste en l'occurrence, et puis une femme qui chante en allemand. Donc ça rappelle certaines versions de Metallica ou d'autres. Vous allez peut-être nous dire quelle est la chanson. Mais disons, qu'est-ce qu'il en était justement par rapport à une chanson très, très martiale qui parle justement de la masculinité, de la manière de l'affirmer. Et puis ensuite, après, on va dériver notamment avec un homme qui a... J'entends un gant ou peut-être un ballon à l'intérieur de son bas-ventre qui pousse comme ça, turgescent. Et puis en même temps, il y a tout un enchaînement alors de scies contemporaines. Ça va de Balavoine à Aznavour. Enfin, il y a quelques phrases et puis on passe de l'un... Peut-être pas Aznavour, alors. Léo Ferré, pardon. Donc c'est pas uniquement des scies contemporaines. Il y a aussi de la chanson d'expression française très poétique. Qu'est-ce qui a un petit peu présidé au choix, justement, de ces moments musicaux qu'on retrouve beaucoup, beaucoup alors chez des chorégraphes contemporains, peut-être un peu moins au théâtre.
Vous pensez à qui?
On peut effectivement penser parfois, mais Jérôme Bell l'a utilisé dans certains dispositifs, notamment en parlant de la chanson contemporaine ou de grands tubes, notamment, hein, je pense à ce qu'il a fait comme installation dans la dernière Biennale d'Art de Lyon, où vous allez, en fait, il y a une succession de 5 salles qui sont totalement vides, il y a un casque d'écoute, et puis par exemple, vous tombez devant un miroir comme ici, puis c'est la chanson de Johnny, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, et puis ensuite, vous êtes dans l'obscurité, c'est de nouveau Johnny, noir c'est noir. Alors, il y a un côté très premier degré, mais bon, voilà, c'est donc vous suivez, chaque fois que vous passez une salle ou un palier, il y a une autre chanson qui se met comme ça, et puis en fait, vous êtes votre propre danseur, c'est ce qu'il a fait dans son dernier spectacle au Théâtre de la Ville, sous les huées d'ailleurs, puisqu'effectivement, il y avait une frise de danseurs qui voulaient pas danser. Après, ça c'est pas très nouveau, mais pour revenir, disons, par rapport à The Show Must Go On, et puis il y a eu effectivement, tout à fait, et puis par rapport à ça, alors justement, d'accord, l'utilisation d'un registre très populaire vis-à-vis de cela, puis qui dit aussi beaucoup, beaucoup l'intime, hein, comme c'est le cas dans pas mal de films.
Alors, le qu'on soit clair, moi je trouve il y a des génies, des dramaturges absolument géniaux actuellement. Je trouve que c'est Pina Bausch, Jérôme Bell, Juan Dominguez, c'est les plus grands dramaturges actuels de jeu de où on en est dans l'histoire, où on en est, comment dialoguer avec les spectateurs. Je trouve que c'est, voilà, mais c'est des chorégraphes, hein, pour ceux qui connaissent ça. Moi je suis absolument fan de Show Must Go On, et il y a quelque chose. Il y a une compositrice sur le spectacle. C'est nouveau. Je fais 2 spectacles avec des musiciens live. Et maintenant, je vais continuer parce que je trouve bien. C'est Patricia Bossard qui a beaucoup de talent. Et en attendant, avant qu'elle arrive, on faisait des essais avec ça. Il y a eu des propositions avec des chansons. Je peux pas prédéterminer ça. Et puis, C'est un espèce de principe qui date du temps de Demain on change de nom aussi. Et je continue à respecter ça. C'est si on décide de mettre une chanson, on la met en entier. On n'essaie pas de la masquer sous des bruitages au lointain, de la trafiquer. Une chanson, c'est une chanson pour ce qu'on connaît d'elle. Donc soit c'est une chanson qu'on connaît, tout le monde, un espèce d'inconscient collectif, ou soit c'est une chanson qu'on invente, en gros. Alors, il y a cette chanson Wenn ist ein Mann ein Mann que tous les germanophones me disent oh, merci d'avoir mis cette chanson, ça me touche tellement, c'est la chanson allemande, c'est le que je t'aime allemand, tous les germanophones, et c'était pour moi ça raconte beaucoup de choses en fait quand on l'a fait traduire, on se dit ah quand un homme est-il un homme et on en propose la traduction, on n'est pas salaud. Avec un système de sous-titres, mais pas fait avec de la vidéo. et c'est le Johnny allemand qui s'appelle. Ah, j'ai un blanc juste maintenant. Voilà, bon, bah, peu importe. Mais aussi parce que c'est un jeu de construction. Comme ça, elle, c'est une comédienne allemande qui tout d'un coup propose ça ça lui tenait à cœur à elle, et petit à petit elle nous l'a fait, elle a fait la place pour cette chanson dans le spectacle. C'est une chanson rock'n'roll mais qui est faite là que avec un violon alto avec les moyens du bord, et voilà, ça c'est un peu une dérogation à notre règle de faire une chanson de présenter la chanson telle qu'on la connaît, comme on utilise voilà cet extra. Les chansons, effectivement, c'est quelque chose de commun à tous, et c'est une histoire personnelle pour chacun d'entre nous, en général. Par exemple, à un moment donné, il y a une espèce de medley, voilà, avec l'aigle noir. Et l'aigle noir, c'est incroyable ce que ça génère chez chaque individu, quelque chose de différent. Celui-là, il est plus utilisé comme un medley autour d'une scène. Pareil d'intimité, seul devant sa glace où on s'amuse avec notre zizi. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais...
Ultime chose, c'est vrai que...
Voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça évoque pour chacun d'entre nous quelque chose de... Une chanson, ça évoque pour chacun d'entre nous quelque chose de précis, de personnel, et alors que c'est généralisé à tout le monde. Et pour moi, c'est comme ce titre « Libération sexuelle », il y a le fantasme collectif et la réalité individuelle. Est-ce qu'on peut dire qu'on est libéré sexuellement? Peu importe que moi je dise si oui ou non je suis libéré sexuellement. Je sais qu'il y a eu des étapes dans ma vie où il y a eu des choses qui se répondent, enfin qui tout d'un coup c'est une quête perpétuelle. Voilà.
Dernière chose, on parle dans votre dossier de théâtre reportage. João Fiadeiro a présenté notamment au récent festival Montpellier Danse en 2007 une pièce qui s'appelle Où va la lumière quand elle s'éteint. La pièce se termine, les comédiens et surtout danseurs qui sont là, qui vont jouer plusieurs fois la même version, mais à la fois avec un texte qui passe en même temps qui est enregistré, qu'on n'entend pas, il chuchote. Puis après, le texte est repassé, mais les actions changent complètement. Et ce qui est très surprenant à la fin, c'est qu'il y a une volonté de faire exploser l'espace théâtral, c'est-à-dire que, alors que des actions se déroulent encore sur scène, il y a le chorégraphe lui-même qui va en fait, en fond sonore, visiter quasiment tous les locaux autour de la salle de spectacle jusqu'à arriver dans la rue. Alors, c'est vrai que c'est un effet d'une simplicité incroyable, mais encore fallait-il penser à cette scénographie, disons, extramuros, et ramener au niveau sonore avec toujours un fil d'un micro qui se glisse comme ça pour donner l'impression de la progression au travers de la Bastide qui recevait ce spectacle. Ici, dans cette manière de théâtre reportage, est-ce qu'il y a aussi une volonté de déconstruire ou de montrer comment des éléments de la vie privée de chacun ou etc. peut construire, peut-être moins simple que Pina Bausch au départ, enfin quand elle a commencé, c'est-à-dire on posait des questions intimes sur chacune des personnes, pas nécessairement par rapport à une thématique. Ça donnait lieu à un certain nombre de propositions mouvementistes aussi, mais aussi d'interviews par rapport à certains aspects de sa vie, de son identité, de manière de construire sa relation au monde et aux autres. Ici, une sorte de théâtre reportage, qu'est-ce qu'il en serait alors par rapport à ça? sur les limites du spectacle, sur la manière dont ça l'interroge, notamment au travers de codes de la TV-réalité qui sont ici. Bon, on me dirait que ça se retrouve, peut-être c'est pas ça, parce que ça se retrouve énormément dans, voilà, dans, que ça soit dans, chez Joël Joanneau qui monte Martin Krim ou d'autres.
Ouais, c'est, de toute façon, c'est un jeu autour de ça. Après, les dossiers de presse sont souvent constitués d'idées de départ, de travail de départ. Très vite, concrètement, par rapport à la sexualité, on a réalisé que franchement, on s'en foutait de savoir que, pour moi, quand il y a le conférencier qui arrive, et qu'on sait, pour moi, c'est entre la réalité et la fiction, par exemple. Déjà ça. J'ai été marqué par le on fait du name dropping beaucoup hein, Kaigi, Stéphane Kaigi, qui ça m'intéresse, je trouve, je me pose la question, comment parler de nous, comment arriver à parler de nous, pas pour se mettre en avant encore une fois, mais comment faire pour que, j'aime cette phrase qui dit, pour jouer, il faut pas se mettre une couche, il faut s'en enlever une. Mais laquelle? Comment on peut essayer d'être plus... Comment on peut essayer d'arrêter de jouer le jeu quotidien de tous les jours où on essaie d'être plus intelligent, plus beau, plus... Est-ce qu'on peut, durant un moment, générer chez les spectateurs l'envie d'être dans l'instant présent, là, de partage, en se disant qu'on est tous, on fait de son mieux là où on en est. Bon, voilà, encore, on parlait de quête impossible, mais quête... donc voilà, c'est plutôt autour de ça. J'ai parlé de ça aux comédiens au début, on en a parlé, on a essayé des choses. Après, je fais pas le bilan, enfin, au moment où la création arrive, de qu'est-ce qui est de part intime ou pas. Après, dans la troupe, il y a des gens qui viennent de vivre une séparation, d'autres qui viennent de tomber amoureux. On parle d'une séparation, on parle de l'amour, on parle de l'envie d'exister, d'être un peu plus sensible, quoi. On essaye de sortir de ces manières de parler que peuvent avoir les médias, la publicité qui cherche à vendre quelque chose de précis, qui touche les politiciens cherchent le connaissable et le connu. L'art doit tenter d'aller dans des zones inconnues. Je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas d'aller dans ces déséquilibres. Alors, on fait courir des gens ronds, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais ça génère quelque chose et que et les spectateurs visiblement le prennent et ça permet d'amener à des scènes avec des sens très précis et ça permet c'est un jeu de va-et-vient des choses extrêmement précises et des choses très larges entre imaginaires où chacun est libre. Voilà, si le théâtre pouvait générer des petits espaces de liberté et des petits moments de présence. En tout cas, le théâtre m'a généré ça. Certains spectacles que j'ai vus m'ont généré ça. Je me suis dit, mais en fait, je suis libre. Vraiment. Je suis libre de respirer au théâtre. Je suis libre de vivre. Je suis libre d'inventer. Je suis libre d'imaginer les pires monstruosités, les pires... Je suis libre de fantasmer sur des danseurs, danseuses. Et ça, c'est un espace que la vie, parfois, me donne pas. Et voilà, j'essaie d'offrir, de transmettre à d'autres ce que j'ai reçu. Alors, je parle de maîtres dont j'ai reçu ça, alors j'essaie de le transmettre modestement, voilà.